nous appréhendons le corps énergétique et les centres énergétiques. Un dossier traite du sujet et recouvre en fait plusieurs documents éclatés dans l'œuvre de Bellé. La présentation que je vais faire ne concorde pas avec le dossier. J'essaye simplement de vous donner un survol de synthèse. C'est une partie technique. Je veux dire par là, c'est comme si on pénétrait la mécanique d'une structure. Et par conséquent, mon propos, c'est surtout de faire apparaître les aspects subtils des choses, indépendamment du fonctionnement, puisqu'en fait, c'est une partie de la réalité de toute vie, c'est la moitié de sa manifestation. Nous allons partir de l'origine de toute cette manifestation. Vous vous souvenez que au plus haut des cieux que l'on puisse appréhender, nous avons une vie grandiose qui va donner la vie à cet univers. En vous précisant que cette vie grandiose, il y en a des millions. Cette vie grandiose, avant de se manifester, c'est-à-dire avant de reprendre son parcours d'évolution, dans sa conscience qui pour nous est absolue, a élaboré un long cycle de manifestations qui, dans sa pensée, porte en elle l'accomplissement. C'est ce qui fait allusion au fameux Big Bang, à savoir que cette vie grandiose va projeter son souffle dans l'espace abstrait absolu et à partir de là va circonscrire un espace de manifestation qui bien évidemment va entraîner des myriades de vies de différents niveaux d'évolution. Vie qui donne la vie à un univers, vie qui donne la vie à un système solaire, vie qui donne la vie à un schéma planétaire et ensuite des myriades de jeunes vies en évolution. Ce souffle des sept univers va en fait circonscrire l'espace abstrait absolu. Ce qui veut dire que vous avez là l'unicité de la manifestation. À savoir que tout va être dans un océan d'énergie. Que cette grande vie va pulvériser sa vie en des myriades de vies. Et ce don de vie soutient le processus des éternels pèlerins à tout jamais. Dans cette macro-manifestation, vous avez en réalité une seule vie. Cette sphère de manifestation, cette macrosphère, représente l'ensemble des structures énergétiques dans les robes de la mer, en d'autres termes, l'espace abstrait absolu. Et va être élaboré les différents plans de conscience liés aux myriades de vies qui vont se manifester. Si vous reprenez le tableau qui présente les sept plans cosmiques pour aller jusqu'à la racine de cette grande vie qui donne la vie aux sept univers, eh bien, vous avez la dimension de manifestation de cette vie grandiose. Si l'on prend le dernier, le plus bas, plan physique cosmique, vous avez, venant des logoïs solaires et planétaires, le corps physique cosmique. Ce corps physique cosmique double les quatre premiers sous-plans représentant la partie éthérique cosmique, les trois derniers représentant la partie dense du corps cosmique. À l'intérieur de ce corps physique cosmique vont pouvoir se manifester les vies plus jeunes et bien évidemment la totalité du champ de réalisation de la vie de la quatrième hiérarchie créatrice, la monade humaine. Cela veut dire que notre racine de vie se trouve dans le deuxième éther cosmique, le plan monadique. Sur le tableau, le deuxième sous-plan. Et sur le plan de notre manifestation terrestre, nous sommes en réalité dans la matière dense du corps physique cosmique. Notre corps émotionnel étant dans la matière liquide et notre corps mental, notre unité mentale étant dans la matière gazeuse. Notre être permanent, l'âme, qui est sur le plan mental, troisième et deuxième sous-plan selon l'évolution, quatrième ou cinquième règne. Notre âme, notre être permanent, va se projeter, si vous vous souvenez, dans la partie inférieure de la manifestation, pour accomplir son contrat de vie et va donc se créer une unité mentale sur les quatre plans inférieurs du plan mental, un corps émotionnel sur le plan astral et un corps dense sur le plan physique. Ce corps dense sera double, corps éthérique et corps dense, corps physique. Quand on parle de corps physique, on parle toujours du corps énergétique. À partir de notre racine de vie, plan maladie, un fil de vie descend jusqu'au plan mental. Là, ce souffle de vie est enveloppé et vous avez la formation du lotus égoïque. À partir de là, se crée le fil de conscience. À partir de là, l'être permanent va donc se créer des véhicules pour pouvoir appréhender les plans inférieurs du corps dense planétaire. Sur chaque plan, vous aurez donc un corps éthérique et un corps dense. Le corps éthérique est formé à partir d'un filament de vie qui va se centraliser dans un atome permanent qui, sur le plan du corps éthérique, se situe dans le centre du cœur. À partir du centre du cœur, vous avez l'atome permanent ou physique ou astral qui va donner vie à ce corps énergétique. Le corps énergétique est en fait un gonflement du fil de vie et à partir de là, vous comprenez qu'il n'y a aucune séparativité puisqu'il y a un océan d'énergie au sein duquel chaque vie va pouvoir se créer son point de manifestation. Et comme il y a 7 plans, il y aura 7 points de liaison avec les plans. Depuis le petit atome jusqu'aux atomes les plus avancés, il y a simplement évolution, développement de ces centres. Je veux dire par là que dans l'atome, il y a soit à l'état latent, soit à l'état actif, l'un des centres. Dans le minéral, il y a en l'état latent 7 centres. Un seul est en potentialité puis en activité. Dans le végétal, il y aura 2 centres. C'est pour vous montrer qu'en fait, dans tout atome, tout est écrit. Simplement, c'est de l'état latent à l'état potentiel et à l'état actif. Sur le plan énergétique, vous vous souvenez, la vie se manifeste par des centres d'énergie et de l'énergie. Les centres d'énergie, vous connaissez, minéral, végétal, animal, l'homme et au-delà, l'homme céleste, et ainsi de suite. Et les centres d'énergie, c'est tout le monde de la mer, c'est-à-dire le monde des devas. Eh bien, en fait, un centre d'énergie est traversé en permanence d'énergie. Ce qui veut dire qu'il y a une activité incessante dans l'océan d'énergie. La manifestation du monde de l'énergie se définit par les différents plans de circulation. Quelle est la caractéristique de ces plans ? Sur le plan énergétique, bien évidemment, c'est des différenciations de vibrations, comme les notes de musique, mais c'est aussi des différents champs de conscience. Puisqu'en fait, ne perdons jamais de vue que le souffle est une pensée projetée et que le monde qui se manifeste est issu de ces pensées. Alors, premièrement, on reste au stade humain pour l'instant, les 7 centres principaux, majeurs, nous mettent en concordance avec les 7 plans. Ce qui veut dire qu'il y aura une circulation d'énergie horizontale et aussi verticale. Alors, d'un côté, vous avez les plans qui concernent les robes de la mer, et de l'autre côté, vous avez les rayons qui, eux, pénètrent la manifestation. Les centres vont en fait entrer en activité et développement au fur et à mesure de ce processus d'épanouissement de la réalisation du contrat de vie.
En fait, ça circule, on est sûr, ou parfois ça circule mal ?
Que ça circule pas comme il faut, certes. Certes, autrement, l'homme serait parfait.
Donc, en fait, ce que vous décrivez, c'est...
J'explique pour l'instant la structure théorique, et puis après, il va y avoir le fonctionnement ou le dysfonctionnement des structures. Ouais. En fait, nos centres dans l'être humain sont à l'envers, ils sont repliés. y compris le centre le plus haut, c'est-à-dire le centre de la tête. Mais ils vont tous avoir à se retourner, sauf le centre de la tête. Et on verra que dans ce processus à la fois de retournement et d'épanouissement des pétales, vous aurez toutes les difficultés de parcours de l'être humain.
Et quand vous dites la réalisation du contrat de vie, c'est-à-dire le plan que l'on a réalisé, c'est ça ?
Toute vie, dès l'instant où elle a été émise, de l'absolu, devient un éternel pèlerin, à tout jamais. Et vous avez les 12 hiérarchies de vie, selon la vie la plus simple, la plus jeune, jusqu'à des vies grandioses qui donnent manifestation aux dimensions cosmiques. Eh bien, chaque vie, devenant un éternel pèlerin, se trouve avoir à assumer son dessein. Son dessein est lié au dessein de la hiérarchie créatrice dans laquelle elle se trouve. Quel est le dessein de la vie qui est au stade humain ? C'est de passer dans une hiérarchie supérieure et à partir de là, d'atteindre la perfection liée à la soi-conscience. Et ensuite, vous avez un plan. Un plan, c'est le stade où la vie en est. Mais tout dessein s'inscrit dans un dessein plus vaste. Alors, on repart au point de départ. Pourquoi la vie grandiose des sept univers se manifeste ? Elle a un dessein qu'elle fait partager aux vies qui donnent vie à un univers. Quel univers fait partager au logoï solaire qui donne vie à un système solaire ? Je simplifie parce qu'entre deux, il y a des vies grandioses qui, sur les sept sentiers cosmiques, ont d'autres fonctions, mais qui sont tout aussi grandioses. Notamment tout ce qui est les êtres rayons. Ce qui veut dire qu'en fait, étant éternel pèlerin, nous aurons toujours la quête de l'absolu, qui bien évidemment n'est pas un être, mais à partir du fait que toute vie a sa racine de vie dans l'absolu, vous imaginez en fait l'aventure éternelle. Alors, je reprends nos sept centres. Nos sept centres sont en fait des centres de circulation d'énergie. Nous avons dans le corps énergétique, et je parle en processus analogique pour toute vie, nous avons sept centres principaux où pour l'être humain se croisent 21 énergies. Je fais allusion à ça aux 3 fois 7, c'est-à-dire aux 3 aspects des 7 rayons. Vous avez 14 centres secondaires où se croisent 14 énergies. Vous avez 21 centres tertiaires où se croisent 7 énergies. Puis vous allez avoir nombre de petits centres qui vont assurer des liaisons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre notre corps dense et notre corps énergétique, il y a des myriades de cheveux énergétiques qu'on appelle nadis et qui collent aux différentes zones du corps physique dense, aboutissant au réseau du système nerveux. Et là, vous comprenez comment se coordonne par la pensée le fonctionnement du véhicule dense. Notre corps énergétique, qui est dans cet océan d'énergie, respire comme notre corps physique dense. Son temps de respiration est de 12 secondes. Le corps énergétique est plus communément connu sous son processus d'exhalation de l'énergie, c'est-à-dire l'aura. Le corps énergétique respire l'énergie du plan terrestre, en d'autres termes, le prana. Ce prana est absorbé par le centre de la rate, effectue un triple circulation au sein du corps énergétique avant de ressortir, de s'exhaler sous l'aspect de l'aura. Cette aura est l'océan d'énergie du système solaire qui est filtré par le corps énergétique planétaire et que nous respirons en permanence. C'est la vitalité du corps éthérique. Les problèmes du corps physique dense, pour ce qu'il concerne, vous savez que les maladies du corps ne relèvent que pour 5% du corps dense par lui-même, et ça vient d'une mauvaise assimilation du prana. Quand vous avez quelqu'un qui a des coups de soleil, eh bien c'est parce qu'il assimile mal le prana. Son corps physique assimile mal le prana. Nous avons donc à l'horizontale l'alimentation par le prana. Mais en permanence, en tant que centre d'énergie, nous amplifions cette respiration énergétique par la coloration que nous allons imprégner à cette respiration. Cette coloration viendra de la nature des pensées pendant les 12 secondes. Ce que l'être fait, même s'il l'ignore pour la très très grande majorité des êtres humains, ou il fait descendre de la substance lumière sur le plan terrestre, ou il fait pipi dans le bocal. Et après, c'est inconscient pour l'être du quatrième règne. Ça doit devenir pleinement conscient pour l'être du cinquième règne, c'est-à-dire l'être qui essaye de pratiquer de justes relations. En fait, nous sommes dans un bocal terrestre, où nous sommes tous des myriades de centres d'énergie. Et où chacun de nous, on soulage, on clarifie le bocal, ou on l'alourdit. Et cela va venir de notre qualité de pensée. Et après, on dit, la Terre, c'est dur à vivre. On a reçu à l'origine un paradis, c'est-à-dire en fait une terre vierge, conçue, élaborée par son créateur, et bien évidemment de haute nature, et au fur et à mesure des temps, eh bien, la Terre est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, dure à vivre. Et comme la règle karmique, c'est que les pollueurs devront faire le nettoyage.
Ça devient l'auto-nettoyage.
Ouais, faut avoir l'humilité de dire qu'on est, comme on dit, pêcheurs, n'est-ce pas ? Alors, en fait, nos 7 centres vont nous relier. Alors, vous mettez le centre de la tête, nous relie au plan atmique. Le plan atmique, celui qui est immédiatement en dessous du plan monadique, pour que justement on fasse les concordances fonctionnelles et qualitatives, lorsqu'un être, dans son relationnel, va veiller au bien de l'ensemble. Il va puiser l'énergie qui caractérise le bien de l'ensemble sur ce haut plan qu'on appelle le plan atmique. Et à partir de là, si vous voulez, dans son échange, où il veille au bien de l'ensemble, il fait descendre la substance lumière de ce plan énergétique jusqu'au plan terrestre. Et bien évidemment, c'est le centre de la tête qui rayonne et il déverse cela sur le premier éther du plan terrestre. Quand un être va utiliser l'énergie du beau, il puise son énergie sur le plan bouddhique ou christique, hein, c'est la même appellation, il fait descendre par son centre cardiaque dans son corps énergétique et sur le deuxième éther du plan terrestre. Alors, quand un être pratique le beau, il utilise l'énergie du plan bouddhique et il fait descendre cette énergie par son centre cardiaque sur le deuxième éther du plan terrestre. Quand il utilise le vrai, il est dans une situation où il a le choix entre manipuler la réalité ou avoir l'humilité, même si c'est planté, de dire je me tiens à la réalité. À ce moment-là, dans sa démarche, il a, dans ses 12 secondes, éliminé en lui de vieilles présences lunaires qui l'incitaient à donner dans le faux. Dans les 12 secondes, il les a libérés, puisqu'ils sont lunaires, ils subissent, il les a libérés du faux qu'ils ont essayé d'imposer, puisqu'ils sont soumis, ils ont été mis au faux, et il leur permet, si vous voulez, de monter, de se libérer, et lui fait descendre l'énergie sur le troisième éther terrestre, au-delà de l'appréhension technique des structures. Ce qui est important, c'est de voir comment ça fonctionne. Et ce que nous faisons en permanence.
Oui, c'est celui de la dynamique, en fait, de la respiration.
Oui, ou tu es une station d'épuration, ou tu es une station de pollution.
Et l'important, c'est la pensée.
Ou ce qu'on fait. Ah, la pensée, c'est votre pensée qui détermine.
L'énergie.
Ah, bah oui, c'est elle qui gère, si vous voulez, les énergies. C'est pourquoi la pensée, bah, parce que c'est la fonction création. Quand vous pensez, vous mobilisez des myriades de vie, puisque vous êtes créateur, même si l'homme ne le sait pas. Quelle est la caractéristique de la vie qui est au stade humain ? C'est qu'elle a l'individualité de conscience, la soi-conscience. Et à partir de là, elle crée, même si elle ne le sait pas. Mais sa création, elle en est responsable. Et à partir de là, ça fait partie de sa population de vie mineure. Et bien évidemment, dans la traversée du règne humain, l'homme devra nettoyer ses écuries. Puis un jour, quand il a fait son travail personnel, eh bien, il participe au vaste chantier planétaire, en remerciement à celui qui l'a guidé dans la traversée du règne humain et qu'on appelle le Père. C'est-à-dire cette vie grandiose qui est passée il y a des milliards d'années par le règne humain et qui aujourd'hui, dans son évolution, donne la vie à la manifestation planétaire. Pourquoi voulez-vous que la vie s'arrête à un moment donné? Pourquoi voulez-vous que le caillou reste caillou?
Donc en fait, ça s'arrête jamais?
Ça s'arrête jamais, c'est une évolution incessante. Simplement, c'est un des postulats de l'absolu. Le premier postulat, il n'y a aucune gloire à être cela.
Donc avant de participer au vaste chantier planétaire, chacun participe à nettoyer son écurie. Donc,
bien sûr.
Donc on est épuration à
voilà.
Les autres.
Voilà.
Et pourquoi on dit le père et pas la mère? Je suis perdue, moi. C'est qui la mère?
Parce que le père, quand on dit le père, si vous voulez, c'est une appellation comme l'homme, à savoir que l'être au-delà du règne humain est androgyne. Alors, je vais vous inviter, si vous voulez, à basculer au niveau lecture, c'est-à-dire ne pas les lire de bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Je veux dire par là, si vous voulez, que l'être humain est sexué uniquement dans son véhicule physique. Autrement, il est androgyne. Pourquoi nous sommes sexués sur le plan terrestre? Parce que ça nous permet à la fois de fournir des véhicules pour des êtres qui viennent, et deuxièmement, le corps physique est le point de jonction avec les jeunes vies mineures qu'on appelle matière.
L'atmique, c'est sur le deuxième sous-plan? Au des point... liaisons par rapport au centre de la Terre.
Tu parles au niveau corps éthérique, physique? Non, non. L'atmique, c'est le premier éther terrestre.
Ça, c'est donc le bien, ça.
C'est-à-dire, il ne faut pas rester simplement, tu vois, dans les jonctions en disant, bon, bah, le plan atmique te relie au premier éther du plan terrestre. Il faut savoir comment tu procèdes pour effectuer la chose, tu vois, hein? C'est-à-dire, quelle est la démarche qualitative de la pensée qui va faire fonctionner cette liaison? Comment puis-je capter la substance lumière de ces hauts plans? Je vous rappelle, si vous vous souvenez des cours précédents, nous avons le corps mental de l'homme céleste. Je ne parle pas du logos planétaire, qui est, lui, sur le plan mental cosmique. Je parle de sa présence en manifestation, en tant qu'homme céleste, et qu'on appelle communément dans les textes de Bélé et autres, Sanat Kumara. Eh bien, Sanat Kumara, son corps mental, est sur le plan atmique. Ça veut dire que, dans sa conception mentale, tout est bien ensemble. Dans son corps émotionnel, tout est beauté. Dans son corps éthérique, tout est vrai. C'est sa nature, c'est son instinct. Il vit comme ça.
Donc on peut faire une déclinaison bouddhique, deuxième sous-plan,
ouais.
Manasique, tout ça,
voilà. Ainsi de suite. Alors, chaque centre va en fait véhiculer à la verticale ses énergies qualitatives. Et bien évidemment, cette énergie elle-même est caractérisée par les sept rayons. Parce que tout cela est essentiel, si vous voulez, dans la démarche de celui qui veut se réaliser. À savoir, on me parle de substance lumière, de plans supérieurs et tout. Comment ai-je accès à ces plans subtils?
Oui, toute cette respiration se fait par le prana, en fait.
Non. C'est ton afflux d'énergie de descente qui va colorer de lumière le prana. C'est pour ça que vous avez, si vous voulez, toute cette concordance avec ces rayonnements d'êtres qui exhalent, en fait, de la lumière. Quand Maitreya vous dit, dans 3 jours, je serai parmi vous, eh bien, il a une telle respiration énergétique de haute vibration que il exhale une lumière, voilà. Mais n'importe quel clairvoyant peut voir les auras de...
Oui. Pour capter la lumière des hauts plans, c'est par la respiration.
Non, ça se fait automatiquement.
C'est automatique.
Oui, simplement, il ne faut pas ignorer qu'au même titre que la respiration de notre corps physique dense, elle est instinctive, eh bien c'est la même chose au niveau de notre corps énergétique. Simplement, notre alimentation, elle, est gérable. La verticalité est gérable. Quand je suis en séparativité, quand je suis à tirer la couverture à moi, je puise de la pollution du plan mental concret, c'est-à-dire les 4 sous-plans du plan mental. Et je les déverse sur le plan terrestre. Je fais pipi dans le bocal. Et je le déverse Hein, vous, on en était où? Enfin, notez-le maintenant. Le centre coccygien correspond au mental concret, au mental humain, le basal. Oui, centre coccygien ou basal, c'est pareil. Hein. Comme j'aime à le dire, parce que je savoure quand je dis ça, nos grands penseurs, quand ils sont comme ça en intellect, ils ont le mental dans le calvaire. Très beau. Nos grands technocrates ont le mental dans le calvaire. Hein, comprenons bien le schéma. Notre qualité de pensée, tous les plans sont des niveaux de conscience. Notre qualité de pensée va faire descendre l'information par tel ou tel centre, qui lui transmet au cerveau. Hein, c'est pas notre cerveau, si vous voulez, qui fonctionne comme tel. Notre cerveau, lui, reçoit l'information de pensée de tel ou tel corps subtil. Et lui décrypte au niveau physique. Mais c'est pas le logiciel, si je peux employer des termes horribles. Il est que le lecteur sur le plan physique.
C'est qui le logiciel? Il y en a un logiciel?
On en a 6. En tout, on en a 9. J'explique. Vous avez votre racine de vie, qui est la seule réalité. Ensuite, vous avez un corps atmique sur le plan atmique, un corps bouddhique sur le plan bouddhique, un corps manasique sur le plan éthérique mental, l'âme, et le mental concret. Puis le corps astral, puis le corps éthérique. Donc si vous calculez, ça vous fait 9 sources. Bon, eh bien, ça c'est nos sources d'approvisionnement de conscience. Comment on passe du 7 au 9 pour ceux qui ont suivi déjà pas mal les cours? Eh bien simplement parce qu'il faut distinguer les 3 aspects du mental. Il y a le mental de nos vies mineures qu'on appelle mental humain. N'oubliez pas, c'est le mental composite de toutes nos vies mineures. Le mental humain, qu'on appelle mental concret, l'intellect. L'intellect, ce n'est pas le mental de la vie au stade humain. Sa conscience permanente, c'est l'âme, mais ensuite, il rentre dans les champs de conscience de l'homme céleste. Et à partir de là, eh bien, c'est nos centres qui vont... Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos centres ne vont pas se mettre en activité d'une façon désordonnée. Nous avons d'abord à édifier nos mondes de manifestation. Nous partons donc de l'unité permanente qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire l'être permanent qui traverse le règne humain. Cet être permanent va prendre en charge, selon le postulat de l'absolu, les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes et ont en charge de les faire progresser, notre unité mentale. Les 4 sous-plans du plan mental. Notre corps astral, notre corps physique sont des myriades de vies mineures qui deviennent des étudiants qui peuvent être perturbateurs, turbulents, jusqu'à être de bons élèves. Ce qu'il faudra faire apparaître à l'être humain, c'est qu'en fait, il a en charge des vies mineures qui ou l'emprisonnent ou il est un bon professeur.